nos différences.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, on va être ensemble pendant une heure et on va parler d'histoire aussi et peut-être un peu d'autres choses. Allez, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Seb au micro, bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va envoyer directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau micro, on va être ensemble pendant une heure, j'espère que vous allez bien. Je suis pas tout seul, ce soir je suis avec Fabien, ça va Fabien?
Ça va et toi?
Ça roule, tranquille, Imhotep comme on dit dans
un certain film. Ouais.
En préambule à cette émission, j'avais un tout petit truc à faire. Je tenais à souhaiter un bon anniversaire à Richard, Richard qui m'a accompagné dans les précédentes saisons et qui m'accompagne encore grâce à Javras dans les voix du Scénarium. Donc, eh ben, on va en profiter. On lui souhaite un bon anniversaire.
Un bon anniversaire, Richard.
Encore une bougie de soufflé, encore une année passée.
Bon, on va pas le faire trop longtemps non plus, mais
je suis sûr qu'en plus il va adorer cette chanson.
Je suis persuadé. Ah mais je le vois déjà s'enjailler dans son salon là. Bon, bon anniversaire à toi Richard. J'avais envie de renouer un petit peu avec ce qu'on a pu faire il y a de nombreuses saisons où on parlait un petit peu d'actualité et j'avais deux petits trucs, trois éventuellement à parler. Déjà, est-ce que tu connais Hunter x Hunter?
Oui, quand même. Ouais.
L'éditeur vient d'annoncer un petit truc. Alors, redonne le nom de l'auteur si tu te rappelles.
Ah,
on va le chercher, t'inquiète. En gros, Hunter x Hunter, c'est une série qui a une grosse fanbase et qui va arriver sur son prochain tome. Je ne sais plus. On va retrouver tout ça. On est nul, hein?
Là, ouais, on est bien parti ce soir.
Pour des experts, impeccable. On est pas mal. C'est de Yoshihiro Togashi. J'étais pas sûr. Oui. C'est publié par Kana en version française et les éditions Kana viennent d'annoncer que pour le prochain tome, en fait, il y aura quelque chose d'assez particulier. Déjà, le tome aura un effet métallisé sur sa couverture dans son édition collector. Il y aura un fourreau qui sera proposé pour ranger ce tome-là. Mais puisqu'il y a un fourreau, il sera pas tout seul dans le fourreau. Il y aura aussi un tome zéro qui sera offert avec l'achat de ce tome. Ce tome zéro, qu'est-ce que c'est? C'est une préquelle à Hunter x Hunter qui était offert aux gens qui allaient voir le film Fantôme Rouge. Film qui est sorti il y a quand même quelques années maintenant, sauf erreur de ma part, je sais pas si je vais retrouver...
Alors je saurais pas te dire l'année exactement, mais ça fait un petit moment déjà, je crois, oui.
Ça date quand même un petit peu. Est-ce que je l'ai là? Ça c'est The Last Mission, Fantôme Rouge, il est sorti en 2013, donc ça a 11 ans maintenant. Donc, un préquel qui était jusqu'alors non traduit et non disponible dans nos contrées. Donc, bonne news pour les fans d'Hunter x Hunter, de pouvoir se procurer un petit ouvrage.
Ouais, c'est très cool qu'ils aient pu faire ça. Ça veut dire que déjà, ils ont récupéré les droits pour cette partie qui devait, a priori, peut-être pas faire partie de l'ensemble. Sinon, ils l'auraient déjà sorti plus tôt, je pense.
Je sais pas.
C'est assez étonnant, d'ailleurs, vu quand même
la popularité
ouais. De Hunter x Hunter, qu'ils aient pas sorti ça avant. Pareil, qu'il y a certains films qu'on n'ait pas. C'est assez étrange.
Ouais. Mais bon. Après, les mangas au cinéma...
On en a de plus en plus.
On a eu One Piece, on a eu Space Family.
On a tous les My Hero qui sortent maintenant au fur et à mesure.
Ouais. J'avais pas.
Les Dragon Ball, bon, ça.
Ouais, mais ça c'est
parce que voilà, c'est historique. Exactement.
Mais tu vois, je pense à des séries. Alors, je sais même pas si c'est des séries qui ont des films comme Demon Slayer ou des choses comme
ça.
Bah,
on a les films. Bah, on a eu Le Train de l'Infini et tout ça. Ouais, okay. Ouais. On les a eu au cinéma en plus. Donc,
parfait.
Mais on en a de plus en plus maintenant quand même. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait vraiment les chercher, quoi.
Il y avait des petites salles. Assez au cinéma.
Ouais.
Pour ça. Autre petite nouveauté, c'est pour les fans de collection, de collectionnite. L'année dernière, les éditions Kiun fêtaient leur anniversaire et ont proposé des pièces, des médailles qu'on pouvait collectionner en achetant deux tomes de certaines de leurs séries. Ils renouvellent l'expérience cette année avec des cartes à collectionner. On a 54 cartes à avoir qu'on pourra avoir en achetant deux mangas de leur série. À savoir les séries My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Les Carnets de l'Apothicaire, Frieren et Kindergarten Wars et Akane Banashi. Dans ces séries-là, moi, il y en a au moins trois que je vous conseille. Les autres, quatre que je vous conseille. Les autres, je les connais pas forcément suffisamment. Jujutsu Kaisen, tout le monde a dit, tu connais pas. Mais Akane Banashi non plus. Et voilà. Alors que toutes les autres, je les connais vraiment à fond. Que dire de ces cartes-là ? Donc, il y a 54 cartes à avoir. À chaque fois que vous achetez deux tomes, vous allez avoir 10 cartes, dont une carte annoncée comme holographique. Ce sont des blisters fixes. Vous aurez toujours les mêmes cartes dans ces blisters à ouvrir. Et tu vas me dire, Fabien, mais il y a 54 cartes à collectionner, il y a 5 blisters. 10 cartes à chaque fois, le compte n'y est pas.
En effet, donc il y a des cartes bonus.
Il y a des cartes bonus qui seront les cartes dédiées à la série Phantom Buster qui n'est pas encore sortie et qui seront disponibles directement dans les tomes de la série tout au long de l'année.
Ouais, pour ceux qui sont un peu curieux de Phantom Buster, ils ont sorti un extrait gratuit du premier chapitre en ligne.
Ok.
On peut aller lire. Donc je suis allé le lire et ça a l'air plutôt cool. À voir vers quoi ça va, mais il y a une petite, ça forme une petite équipe un peu hétéroclite, sympathique de chasseurs de fantômes.
C'est les chasseurs de fantômes qui les mangent, c'est ça ce que.
Il y en a un qui a ce pouvoir-là, ouais, en effet.
Ok.
Et après, il y en a un autre, c'est plus de les voir, de mieux savoir où ils sont. Voilà, ils ont chacun une petite particularité. Il y en a un qui ne croyait pas du tout, qui est très cartésien et tout, et qui se retrouve plongé là-dedans. C'est lui qui est un peu central, avec a priori, mais je pense que ça va vraiment être les quatre.
Ok, bon, bah, à découvrir.
On va voir, ça a l'air plutôt cool comme ça.
On en parlera ici.
Ouais, de quand ça façon. Sortira, mais oui, carrément.
Alors comment ça se... Il y a un fascicule qui est offert pour pouvoir collectionner les cartes. Donc si vous le voulez, bah faut le faire maintenant parce que du coup après il sera plus disponible ce petit fascicule. Et puis il y a un premier blister. Alors je sais pas si t'as le temps de regarder les différentes cartes.
Alors non, j'ai regardé, j'ai parcouru un peu.
Mais je trouve qu'elles ont un petit design un peu old school qui fonctionne plutôt bien. Elles sont cool, elles sont agréables. J'ai juste un petit bémol. Moi, quand on m'a annoncé carte holographique, je m'attendais à un truc un peu comme ce qu'on avait dans les paquets de BN à l'époque avec les cartes qui brillaient dans tous les sens.
Ouais.
Et là, en fait, on est plus sur un vernis sélectif avec un léger relief. Et t'es en train de chercher la carte.
Oui,
et...
je cherche la carte holographique. Ah oui, elle est là, d'accord.
Ouais.
Je suis. Oui, si c'est celle de Carnet de l'Apothicaire.
Carnet de l'Apothicaire, ouais, l'héroïne.
Ouais, elle est. Moi, je dirais qu'elle est brillante, quoi.
Ouais, elle est un.
Elle est un peu brillante, mais bon.
Alors j'avoue que j'ai été un peu déçu, mais bon, c'est des cartes promo qui sont offertes, et je les trouve cool. On a ce design des cartes qu'on pouvait retrouver dans les paquets de BN, en fait, à une époque, que je trouve classe.
Non, enfin, mais c'est sympa, c'est une petite nostalgie, c'est vrai que d'avoir un petit truc à collectionner, je pense qu'il y en a pas mal qui vont trouver ça cool. Moi, personnellement, je suis pas forcément le public, mais mes enfants un peu plus, clairement. Mais c'est toujours bien de faire des petits trucs comme ça, c'est... En plus, là, c'est des choses qui sont offertes. Donc, je veux dire, ouais. C'est pas encore un truc où on va faire encore des collectors pour rajouter un petit peu un prix un peu plus élevé ou pour avec des fois des choses dedans qui, des fois, peuvent valoir le coup et des fois un peu moins, quoi.
Ouais. Bon, là, il y a l'obligation d'acheter deux tomes d'une série, mais...
On les achèterait, de toute façon, les deux tomes.
Oui, voilà.
Donc, bon.
Puis, ils ont réussi à varier les séries parce que avec la précédente collection... alors. Ma fille l'a fait, moi je l'ai fait. Ça veut dire que tous les mois, enfin tous les deux ou trois mois, ça dépend de la fréquence, moi j'achetais quatre mangas. Oui. Je veux dire que la collection elle se remplit vite quand même. Hein.
Ah bah c'est sûr, ça va vite. Hein. Ouais, faut mais que bon. J'y aille à la librairie, parce que chaque fois que j'y vais, de toute façon...
C'est ta femme qui rouspète en rentrant.
un petit peu, ouais.
Bon, ben voilà, donc retrouvez ça chez vos libraires, c'est plutôt cool. Les cartes sont sympas, donc faites-vous plaisir. Autre actualité, une actualité peut-être un petit peu moins rigolote. Est-ce que tu connais la BD Boule à Zéro, mon cher Fabien ?
Eh ben, je ne connaissais pas avant qu'on en parle tout à l'heure ensemble et que tu m'expliques un petit peu ce dont tu vas parler là.
Alors, Boule à Zéro, c'est une BD je n'ai plus les noms des auteurs. Je vais vous la retrouver tout de suite, qui parle de Zidrou et Ernst, qui parle d'une petite fille qui est atteinte d'un cancer, donc elle a le crâne rasé à cause de chimio, voilà, et elle vit dans un hôpital. Et au fur et à mesure des aventures, on lui fait rencontrer d'autres personnes, découvrir la vie du service, il y a plein de choses qui vont parler de cette maladie. C'est une BD qui est hyper cool, parce que justement, elle invite à sensibiliser aux enfants hospitalisés. Les auteurs et l'éditeur ont fait des opérations à destination des hôpitaux. Il y avait des BD Boule à Zéro qui étaient distribués aux enfants hospitalisés. Et là, en fait, il y a une personne, une influenceuse, je crois, qui a dit, Boule à Zéro, son tome 7 est un tome raciste. Alors effectivement, si on regarde la couverture, on y voit Boule à Zéro... la petite Zita, si je me trompe pas sur le prénom, dans un lit d'hôpital avec un petit garçon noir. Et le petit garçon a les traits très caricaturaux. Les lèvres saucisses, le teint très très noir. On a mis toute la dose de noir qu'on pouvait mettre. Et c'est un dessin qui est un peu cliché. Eh ben, je vais pas m'attarder moi sur le fait que ce soit raciste ou pas. C'est pas mon boulot. On pourrait en parler parce qu'on a déjà parlé de Tintin. De Spirou. Je vais surtout vous renvoyer vers l'excellent article fait par le média Comic Strip, où justement ils vont analyser qu'est-ce que c'est qu'un dessin raciste, dans quelles conditions c'est utilisé, les différences entre Boule à Zéro et Spirou par exemple, parce que Boule à Zéro et Spirou sont des dessins semi-réalistes mais qui n'utilisent pas la même façon de faire. Ils vont aussi s'attarder aux dessins de personnes racisées dans d'autres médias. Pourquoi on a ce type de dessin là? Et puis aussi comment sont dessinées des personnes racisées par des personnes issues de la même ethnie. Donc on va vraiment l'article est hyper intéressant et en toute fin on va l'auteur de l'article décrypte les planches qui sont incriminées par l'influenceuse en question. Et au final, on se rend compte que il y a rien hormis un dessin peut-être maladroit sous couvert de caricature, parce que c'est un dessin, c'est comme ça qu'on le fait depuis très longtemps. Il y a rien de raciste dans cet album.
Déjà, au vu de ce que tu m'en as dit et du thème, et a priori des échanges qu'ils ont l'air d'avoir ensemble, ça me semble pas du tout être le propos. Après, je l'ai pas lu, j'ai juste vu un petit peu, on en a parlé tout à l'heure. Il faudrait que je vais aller voir l'article aussi pour me faire un peu une idée et comme ça voir ces fameuses planches. Mais je trouve que des fois, alors je ne sais pas qui est la personne qui a lancé ça, mais des fois des personnes lancent ce genre de choses sans trop lire ou sans trop chercher plus loin que le premier visuel ou le premier regard. Donc et histoire de faire parler aussi un peu. Alors je ne sais pas si là c'est le cas, mais c'est des sujets je trouve qui des fois vont peut-être aussi bloquer une forme d'expression si on va pas au fond un peu plus des choses que juste le premier abord en fait. Je pense que c'est le propos moi d'abord qui doit aussi être lu et être compris pour savoir si est-ce que le dessin est fait pour se moquer et va avec le propos ou pas. Et à partir de là, c'est un ensemble qui fait qu'on peut dire est-ce que quelque chose c'est vraiment raciste ou pas, et est-ce que ça doit être mal interprété ou pas. Après, c'est toujours une question aussi de regard personnel, hein, parce que c'est en fonction de chacun, et puis les choses qui peuvent être véhiculées, qu'on peut ressentir, parce que ça reste de l'émotion malgré tout. Hein. Mmh. Mais donc du coup, voilà, je pense qu'il faut être un peu plus global et pas tout le temps s'arrêter qu'au dessin, surtout que là, ça a l'air quand même d'être une histoire très gentille, très belle, d'une relation entre deux enfants malades qui cèdent. Donc, ça m'embête, moi, qu'on limite ça, a priori, à une forme de dessin qui serait raciste, voilà, qui pourrait gêner. Mais comme j'ai dit, j'ai pas lu, donc je peux pas non plus en dire beaucoup plus, quoi.
Mais de la même manière, hein, je l'ai pas lu non plus. Je me base effectivement sur ce qu'a dit Comic Strip dessus. Et c'est assez... L'article, au départ, je me suis dit, on va avoir... un entrefilé de bref. Non, l'article est très exhaustif et très intéressant à lire parce que justement, il pointe tout ce que tu viens de mentionner. On a l'affect, on a la culture qui va jouer sur la façon dont on va percevoir quelque chose de raciste. Je suis persuadé que je file ça à, je sais pas, mon beau-père par exemple, il va pas voir le côté raciste du truc parce que sa génération a été baignée dans ces caricatures coloniales et voilà. Comme moi, quand je lis certains mangas, je vois pas les plans culottes parce que c'est pas ça qui m'intéresse.
Oui, tout à fait, ouais.
Donc bon, mais très intéressant. Après, ce qui est toujours dommage, je trouve, c'est que des ouvrages comme ça qui sont passés entre les mains de critiques ou même d'émissions de radio comme nous, hein, on détecte pas forcément ça, puisque là, la personne qui dénonce ça est une communicante. C'est comme ça qu'elle est qualifiée dans l'article de Comic Strip. Et je tiens à rappeler qu'elle décèle ça en 2025, alors que l'album est sorti en 2018.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu réagir plus tôt ? Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà. Mais allez lire cet article. Il est vraiment très, 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 très intéressant. Voilà. C'est tout ce que je vous demande de faire. On va faire une petite pause musicale avec... est-ce que tu es calé en Eurovision
Comme tu as dû remarquer depuis quelques temps, je ne suis pas beaucoup calé en musique et en Eurovision, je pense encore moins.
Je vais faire une petite musique thématique, puis vous verrez pourquoi tout à l'heure. Là, ce sont les demi-finalistes de l'édition 2024. C'était Aliona et Jerry Hale, et elles représentaient l'Ukraine. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Щоби не було, світ на її плечах. Мені, мені, манівці, звивисті скелясті. Але з них твої руці, твоє знання.
Ми будемо вас.
Aliona, Aliona et Jerry Heil sur le 101.5 de Radio G. C'était la chanson Teresa et Maria qui a fini deuxième à l'édition 2024 de l'Eurovision. Alors, si vous n'êtes pas trop bête, vous vous demandez pas pourquoi, vous demandez peut-être pourquoi en fait je passe une chanson de l'Eurovision alors que je ne suis pas forcément un grand fan.
En effet, parce on peut se demander.
On peut se demander
on
pourquoi.
On peut se demander.
Eh bien, parce que je vais vous parler dans la chronique qui vient d'histoires récentes, d'histoires plus anciennes, voire beaucoup plus anciennes, puisqu'on va parler de l'album « L'Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie, du Moyen-Âge à nos jours ». Comme le titre l'indique, on va s'attaquer à une petite histoire du conflit russe-Ukraine qui est toujours en cours aujourd'hui, hein. C'est un album qui est publié aux éditions Robinson. Il est scénarisé par Mariam Nayem et illustré par Yulia Vus et Ivan Kipibia. Je le lis maintenant, je leur dirai un moment plus tard. Je m'excuse déjà pour toutes les prononciations parce que je parle pas bien russe. Donc voilà. Donc, comme annoncé en préambule, c'est un album historique. Tu l'as parcouru tout à l'heure, tu peux... Ouais. Peu importe. Le but, c'est de nous raconter quelque chose par l'histoire, par beaucoup de documentation, et ça ne va pas nous être raconté de manière linéaire. Déjà, les auteurs vont nous plonger dans la guerre telle qu'elle est actuellement. On va suivre le quotidien d'une jeune fille qui va devoir se réfugier dans son couloir parce qu'une alerte aérienne retentit, annonçant un possible bombardement. Pendant l'alerte, elle va rester sur son smartphone, qui fonctionne toujours, et elle va se poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide ? Avec cette question, on va remonter dans le temps, au début des années 20. À ce moment-là, l'Ukraine est plutôt un pays qui fonctionne normalement et en autonomie, son économie étant centrée sur l'agriculture. Et puis on va découvrir quelque chose qui s'appelle l'Holodomor. Est-ce que tu sais ce que c'est, Fabien ?
Non, aucune idée.
Ah. L'Holodomor, c'est le nom donné au génocide des populations ukrainiennes par les régimes communistes.
Ok.
Ambiance. Les communistes, grâce à toute une série de lois, vont appauvrir les paysans ukrainiens sous prétexte d'augmenter de manière démentielle l'industrialisation de la Russie pour faire concurrence au reste du monde. Enfin, on parle de l'URSS à l'époque. Le but de ces lois ? Faire de l'Ukraine un réservoir économique de céréales qui doit produire bien plus que ce que la nation est capable normalement. Et avec un export qui ne permet pas aux agriculteurs de vivre de leur production, économiquement et matériellement. Du coup, on reprend le quotidien de cette jeune fille, dans sa vie, au milieu de la guerre, et elle va finir par aller se réfugier dans un bunker anti-aérien en compagnie d'autres personnes. Là, en discutant avec les différentes personnes présentes, on va découvrir plus profondément qu'est-ce que c'est que l'Ukraine. Pourquoi et comment la Russie a fait des liens historiques très forts avec l'Ukraine ? On y découvre qu'il y a longtemps, l'Ukraine a pu s'appeler la Russe de Kiev. R-U-S. Je m'excuse encore à ce moment-là de ma prononciation un peu défectueuse, mais j'ai pas eu le temps de prendre des cours d'ukrainien. Bref. On va remonter alors le temps et découvrir les différentes alliances menant à la christianisation de l'Ukraine. On va aussi découvrir, grâce à tous ces échanges, comment la Russie chrétienne s'est aussi servie de cette évolution de l'Ukraine pour l'intégrer dans le mythe et la grande histoire russe. Les auteurs vont aussi nous présenter les Cosaques. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Cosaque ?
Alors, j'en ai entendu de noms comme ça, mais je ne saurais pas dire la définition exacte.
Eh ben moi, c'était pareil. Le nom résonnait, mais quelque chose que je connaissais, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors pourquoi font-ils partie de cette grande histoire ? Qui sont ces rebelles et comment ont-ils disparu ? Eh ben, on va nous l'expliquer. On va également nous parler de la révolution orange de 2004 qui a suivi les élections truquées, puis invalidées, dont le candidat majoritaire, qui était plus proche de l'Europe que de la Russie, a malheureusement subi une intoxication à la dioxine, avec un dosage incroyable. Il a survécu, je précise. On va aussi parler de la façon dont la langue ukrainienne a été mise de côté avec force de loi au profit de la langue russe. On va aussi parler de comment les intellectuels et les littéraires ukrainiens ont quasiment tous été assassinés ou ont disparu. Oui, je fais des guillemets avec les doigts. Au fil des pages, on se rend compte et on découvre que la main de la Russie a toujours été posée de manière très appuyée sur l'épaule de l'Ukraine. Que le contrôle a toujours été très serré et franchement violent. Dans cet abri, on rencontre différentes personnes qui vont nous apporter différents regards et expériences sur le conflit. Par l'intermédiaire de ces personnages, on découvre qu'ils peuvent survivre grâce à des dons faits par des anonymes. Des anonymes qui, par leurs dons, vont leur permettre de résister sur place. Des anonymes ukrainiens ou encore des étrangers qui décident grâce à ces dons de soutenir ces victimes d'un conflit quand même un peu absurde. Je cache pas que l'histoire est plutôt dure, même si on ne cherche pas à faire dans le larmoyant. L'histoire, elle est touchante, même si c'était très historique. On est toujours ancré avec cette jeune fille. On découvre un pays qui a quand même pas mal souffert de son voisin. Puis on a toujours cette jeune fille qui nous raccroche à la réalité. Une réalité très très proche de nos portes et qui nous fait quand même pas mal peur. Parce que proche de nos frontières, parce qu'avec une nation puissante et un dirigeant qui semble prêt à tout. Bon, je rassure tout le monde, on n'est pas dans la fiction, l'ouvrage est sourcé. On a toute une page de bibliographie à la fin et toute une page de références qui explicite certaines citations ou éléments qui parsèment le récit. Pour les plus parano d'entre nous qui nous permettent quand même d'aller les vérifier. Alors, petit message aux plus parano des parano. Justement, il y a beaucoup d'ouvrages qui nécessitent de connaître le cyrillique ou la langue russe ou de l'anglais, puisqu'il semble que de nombreux ouvrages ne sont pas traduits en français. Faut pas forcément y chercher un complot, mais peut-être plus la preuve d'un manque d'information et de documentation en France sur ce qui peut se passer chez un de nos proches voisins et en Russie. Graphiquement, on est sur un récit qui s'ancre beaucoup dans la réalité façon reportage. Et pour donner cette sensation, les artistes ont choisi un style crayonné comme issu d'un carnet que l'on aurait griffonné à la va-vite pour prendre des essais au quotidien. Ça renforce le côté documentaire sur ce qui se passe dans le quotidien de cette jeune fille justement. Les teintes choisies dans l'album sont volontairement dans des tons gris et blancs ou des teintes orangées. Si vous avez suivi cette chronique, je pense que vous pouvez faire le lien tout seul. Petit bémol, je trouve que parfois le cadrage et la lisibilité sont un peu difficiles à suivre. C'est sans doute lié à la scénarisation et réalisation de l'album qui porte parfois plus du côté de l'illustration globale pour apporter du texte historique que du côté BD. L'ouvrage est assez dense, surtout qu'on enchaîne beaucoup d'idées et d'informations. Et je pense que si on voulait vraiment tout détailler sur la situation en cours, il faudrait beaucoup plus de pages. Pourtant, les auteurs arrivent à faire succinct et synthétisent de longues années d'histoire tout en gardant notre attention active. Les auteurs en profitent également pour nous donner quelques petits conseils de survie en temps de guerre si on est un civil. Par exemple, dans le cas d'une alerte d'attaque aérienne, il vaut mieux aller se réfugier entre deux murs, entre nous et l'extérieur. De préférence, un mur normal et un mur sans fenêtre. Si on a une explosion, le premier mur va absorber le souffle et le deuxième, les éventuels éclats. Ouais, c'est pas super joyeux, hein, mais je rappelle que le but de l'ouvrage n'est pas d'être joyeux, mais de nous permettre de découvrir un petit peu plus l'histoire de l'Ukraine. L'histoire de ce conflit qui va chercher beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, dont les racines vont plus loin que ce qu'on nous raconte officiellement. Et c'est vraiment hyper intéressant à lire. Je suis toujours honnête avec vous, hein, je suis pas très livre-histoire à la base, et celui-ci m'a vraiment passionné de bout en bout. Et il m'a aussi donné envie d'approfondir certains sujets et creuser un peu plus cette culture si proche et pourtant si lointaine. Fabien, je te laisse redonner les références.
Alors, c'est donc Ukraine, petite histoire d'une longue guerre avec la Russie du Moyen-Âge à nos jours, par Mariam Nayem, Yulia Vous et Ivan Kipida. Kipibida, excusez-moi, aux éditions Robinson.
Oui, je vois que ton accent russe n'est pas meilleur que le mien.
Oui, c'est ça. Je suis pas... Non, en effet.
Tu veux donner un petit avis sur ce que tu en as parcouru pendant cela?
Eh ben, j'ai remarqué la même chose que ce que tu disais. C'est au niveau du découpage, je t'ai même posé la question un petit peu en aparté. Est-ce que, dans quoi on classe ce genre d'ouvrage? Est-ce que c'est vraiment de la BD? Est-ce que c'est autre chose que je ne connais pas? Du fait du découpage, en fait. Je me posais la question parce qu'on a souvent, en fait, une illustration globale sur toute la page, avec des bouts de texte qui sont des bulles, quand même, ou pas, d'ailleurs, qui sont un peu répartis sur ces pages-là, avec quelques encadrés. Et du coup, en fait, en effet, on n'a pas une lecture classique de bande dessinée, mais une lecture d'ensemble quand on ouvre les pages. Et ça, du coup, je pense qu'en effet, comme tu disais, de temps en temps, on ne doit pas trop savoir par quel bout commencer sa lecture. Les dessins, je les trouve chouette. Il y a certaines planches qui nous donnent vraiment une impression de réalisme. Alors, quand on les voit dans le sous-sol, dans un abri souterrain ou ce genre de choses, même les visages sont travaillés. C'est joli. Puis ce côté très orangé, en fait, sur tout, et amène un côté historique, en fait. Je sais pas, je donne un petit peu ça. Et ça a l'air très intéressant. Et c'est vrai que ça me donne bien envie de tester pour connaître cette histoire que je ne connais pas du tout, en fait, au final.
Et ben, ce sera l'occasion de découvrir. Mmh. Je tiens à préciser aussi que l'album nous a été envoyé par l'éditeur. Voilà, toujours dans le souci de transparence. Après, voilà, si vous avez un doute, je vous rappelle la ligne directrice de la radio. Si on n'aime pas, on n'en parle juste pas, on ne va pas en dire du mal. Donc voilà.
Oui, on n'est pas là pour ça. Après, il y a des choses qu'on peut aimer avec des points négatifs qu'on dit. Et
oui,
puis, voilà. Mais c'est vrai que si vraiment il y a des titres qu'on n'aime pas du tout, autant parler d'autres choses et passer un bon moment à parler des choses bien.
Ouais. Et ça, c'est bien.
Ok.
Si ça t'embête pas, je vais monopoliser la parole.
Pas de souci.
On va à nouveau parler d'histoire, mais avec un manga cette fois-ci. Déjà, je l'ai passé. Ça, c'est un manga publié chez Nobinobi qui s'appelle Fallen Zeus. Et c'est de Ei Oitsuji. C'est un manga qui nous a été fourni par l'éditeur. C'est sorti en 2022 au Japon. Ça comporte actuellement 4 tomes. Et en France, on est sur 2 tomes, l'histoire étant toujours en cours. L'histoire prend place en Grèce antique, à Athènes pour être précis. On y suit l'histoire de 2 jeunes esclaves qui sont au service d'un maître. L'un est un esclave plutôt manuel, il est là pour offrir ses services et servir son maître et ses hôtes. Tandis que le second est plutôt un esclave sexuel. C'est un esclave qui est plutôt beau et par conséquent il partage la couche du maître dès que celui-ci le demande. Je précise, il y a un petit avant-propos sur ce sujet-là de l'éditeur, de l'auteur, que voilà, il cautionne pas forcément, mais que historiquement parlant, voilà, il n'y avait pas trop le choix. Et je précise aussi que ces esclaves sont plutôt jeunes. Ils sont pas adultes, hein, clairement. À cette période, il y a une peste qui ravage Athènes. Peste, pas forcément au sens qu'on connaît au Moyen-Âge, mais une peste comme une maladie qu'on ne sait pas contrôler. Et elle semble pas pouvoir être arrêtée. Une nuit, le maître de nos 2 protagonistes devient, du coup, très malade. La peste est suspectée et on décide d'isoler le maître et l'esclave qui partageaient sa couche. S'il va être fait ce qui est possible pour tenter de sauver le maître, l'esclave, lui, on l'enferme dans une pièce un petit peu loin de tout. On va lui donner de la nourriture par une fenêtre, mais on va pas rentrer dans la pièce pour vérifier s'il est capable de se nourrir ou simplement si la fièvre a pu baisser. Ou même s'il est encore en vie. Devant l'épidémie, les citoyens font un petit peu avec les moyens du bord. Et un esclave n'ayant pas de valeur réelle, ben on l'isole et puis tant pis. Mais il y a une personne qui est pas d'accord avec cela. C'est le compagnon dont on parlait tout à l'heure, le jeune esclave un peu plus manuel, qu'on va nommer Tillette. Et ben ce jeune esclave est bien décidé à sauver la vie de son pote. Il va tenter de le secourir en entrant dans le lieu où il se trouve, et il va constater avec tristesse que son ami est déjà décédé. Sous l'effet de la colère, prostré sur le corps sans vie de son compagnon, Tillette crie son sentiment d'injustice. Pendant ce temps, dehors, les gens de la cité ont bien tenté d'empêcher Tillette de rentrer dans cette maison, mais comme il a été de son plein gré, bah, on va le cramer avec la baraque. Et répondant au supplique de Tillette, une énorme colonne de lumière vient frapper la maison où se situe le jeune garçon au milieu des flammes. Tillette se retrouve alors face à Hadès. Hadès, le dieu des morts, le dieu des enfers. Tillette regarde Hadès et les yeux pleins de larmes lui demandent de sauver son compagnon, de le ramener à la vie. Le dieu le regarde en retour longuement avant d'annoncer que bah lui il peut rien faire à Sarkette, mais que Tillette pourrait arriver à faire quelque chose. Le jeune esclave ne comprend pas et c'est là qu'Hadès lui explique qu'il n'est pas qu'un simple esclave. Il possède en lui l'âme de Zeus, le dieu des dieux, banni par ses enfants pour une durée de 1000 ans sur Terre. Au même instant, l'âme de Zeus se révèle, se réveille et prend le contrôle du corps de Tillette. Il y a une petite discussion entre Hadès et Zeus. Zeus ayant perdu tout son espèce de gigantesque aura. Et le dieu va proposer un deal à l'esclave. S'il est capable de l'emmener à accomplir plusieurs missions pour pouvoir être libéré de cette malédiction et se venger de ses enfants, Zeus s'engage à ressusciter son compagnon. Tyète accepte. Malheureusement, aussi puissant et grand soit Zeus, il est à présent dans le corps d'un humain mortel, avec tous les inconvénients que ça implique. À savoir, ben, si tu prends par exemple une flèche, ben, tu peux mourir. Donc la quête ne va pas être aussi simple que voulu. Mais ça, je vous laisserai le découvrir, chers auditeurs, en lisant la suite. Ce qui est hyper intéressant avec ce manga, c'est qu'on nous fait découvrir la vie dans la Grèce antique. Alors, on a aussi une aventure, hein, on va rencontrer des divinités, on va voyager à travers la Grèce antique. Mais c'est vraiment le quotidien que l'on découvre avec les différentes castes, par exemple. Moi, je l'ai appris un petit peu à l'école, mais j'avais oublié que esclave, c'était une caste. Mais une caste qui correspond plus à des objets au service des citoyens d'Athènes que considérés comme de vrais individus. Ils n'ont pas de valeur. S'ils meurent, tant pis, on les remplace. Comme quand t'as pété une assiette. Et on va également découvrir comment se pratiquait la médecine. Et c'est vraiment très très loin de ce qu'on peut connaître à notre époque. Hein. On va apprendre beaucoup de choses au cours du périple de Tyète et de Zeus, comme par exemple les différentes divinités. Et l'histoire de ces divinités. Quels sont les liens qui les unissent, surtout familiaux, on le verra. Et pourquoi les enfants de Zeus en veulent à leur divin paternel? C'est très compliqué. Si vous connaissez pas la mythologie grecque, imaginez que c'est un peu comme les feux de l'amour. Tout le monde se connaît et tout le monde a au moins plusieurs dizaines de raisons de détester les autres. Et puis ça y va de coup de... en coup de... voilà. J'ai pas le bip, donc je laisse mettre le mot que vous voulez entre ces phrases. Si vous en avez fait un petit peu à l'école, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est un vrai régal à lire parce que c'est hyper complexe. Hyper fun, mais pas toujours très joyeux. Donc c'est hyper intéressant cette histoire, parce que on va apprendre beaucoup de choses sur le quotidien de la Grèce. C'est globalement sourcé, je pense que faut pas aller chercher non plus des véracités historiques pures de dur, mais ça marche bien. Et puis graphiquement, moi j'ai trouvé ça franchement cool. On a des dessins qui sont très propres, on a du décor, on a des choses qui sont bien détaillées, et c'est encore plus détaillé quand on va s'intéresser à l'architecture, l'art et les dieux. On a une statue d'Athéna Niké à un moment, elle est très propre, et je suis persuadé que si vous allez sur place en Grèce, la statue, si vous l'avez vue dans le manga, vous la reconnaissez tout de suite. Bon, en même temps, elle est très iconique. Et les divinités, il y a un soin hyper fort apporté à leur design. Ils sont très détaillés, plus que les autres. Et ils sont très imposants, ils sont très classe. Mention spéciale à la déesse Athéna, où ils ont vraiment fait un bon design que je trouve vraiment très cool. Enfin voilà quoi, c'est un manga qui va vraiment vous parler d'histoire, qui va vraiment vous emmener dans une histoire qui est captivante et qui est vraiment cool. Enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabien? T'es en train de le parcourir depuis tout à l'heure?
Oui, bah oui, je parcours, je ne connaissais pas ce titre. Voilà.
Tu peux pas tout connaître non plus. Hein.
Ah bah non, il y a trop de choses. non, clairement. Et bah non, c'est vrai que les dessins ont l'air plutôt cool. Après, les récits historiques, j'en lis de temps en temps, j'aime bien, en général. Quand c'est des choses qui sont réalistes, je préfère. Là, ça doit être un peu plus fantaisiste quand même.
Un peu plus fantastique, ouais.
Un petit peu plus fantastique. Donc, en effet, on voit que sur les dessins, on attache une importance aux armures des dieux, notamment. J'ai vu les détails sur les armures qui sont très chouettes et tout ça. Donc, à voir, pourquoi pas. Est-ce que ça peut donner, en effet. C'est toujours intéressant de pouvoir allier côté aventure et côté historique. Ça permet aussi à des plus jeunes de pouvoir apprendre des choses tout en ayant une aventure qui peut leur permettre de le lire. Parce que des fois, ça peut être, entre guillemets, barbant. Quand on était plus jeune, moi, il y a des choses... Maintenant, ça peut m'intéresser, mais ça ne l'était pas forcément quoi, quand j'étais plus jeune. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir lier les deux. Je ne connaissais pas ça, aussi, là, chez Nobinobi, ça a l'air d'être une collection particulière, la collection Genki. Alors, je ne sais pas ce qu'elle...
Je ne sais plus ce qu'elle regroupe.
Ce qu'elle regroupe exactement. Mais peut-être que c'est en effet une collection plus spécifique avec un peu d'histoire ou ce genre de choses. Il faudrait que je regarde.
C'est une collection qui doit être un petit peu plus mature. C'est pas tout à fait... Le shonen classique, c'est un petit peu plus de sujets. Tu vois, là, on parle quand même d'esclaves, on parle de...
Oui, relations, des relations particulières d'esclaves, enfin, avec les maîtres, ou vraiment d'objets, comme tu disais. Mais oui, on voit déjà rien qu'au tout début, cette double page est plutôt quand même assez belle, en effet. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, tu disais pour l'instant, c'est en cours avec deux tomes, c'est ça?
En France, on a deux tomes, il y en a quatre au Japon.
D'accord. Donc, à voir.
Voilà. Mais c'était bien cool. Et tu sais, tu parlais de récits plutôt historiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en Grèce, le côté mythologique était quasiment intégré tout le temps. Donc, le côté fantastique qu'on a dans l'album, je trouve, ça roule naturellement.
Ok. En effet, j'ai dit historique, mais finalement, c'est mythologique plus que historique. Ouais. Mais c'était tellement lié à cette époque-là entre les deux que ça faisait partie de leur histoire au final.
Donc bah puis c'est fait de même. Alors t'as des apparitions, mais grosso modo, il n'y a que Tillette qui va voir ce genre de choses. Le reste est expliqué par des petits effets de manche que je vais appeler, qui font que les autres ne voient pas.
D'accord.
Et je trouve que ça marche bien. C'est plutôt efficace et le personnage principal, ben, on s'y attache plutôt pas mal, donc ce qui est cool.
Ok.
Donc, je vais redonner les références.
C'était donc Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave de Hei Oitsuji. Et c'est chez Nobinobi dans la collection Genki.
Et c'est très bien. Je vous propose qu'on refasse une petite pause musicale, sinon on n'aura pas le temps de la faire après, avec Regina Spektor et One Man's Prayer. J'ai équilibré, puisqu'il s'agit d'une artiste russo-américaine. Donc voilà, j'aurais l'ukrainien du russe.
I just want some girl to love me back. Tell me I'm her only and take away the lonely. This deep love in my heart can't go to waste. Cause if I won't get to meet God and I won't get to be a God, then at least God let me get love back by a girl. I just want some girl to talk to me and tell me that I'm different or say that I'm the same. I don't care what she thinks, just think of me. Cause if I won't get to meet God and I won't get to be a God, then at least God let me get talked to by a girl. This is what I want. Look my way and see that I am better than the others that I matter. In her life I wanna be a friend. Cause if I won't get to meet God and I won't get to be a God, then at least God let me get noticed by a girl. In this great world we just have to live.
Regina Spektor, One Man's Prayer sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb, je m'appelle toujours Sébastien et je suis toujours en compagnie de Fabien.
Eh oui, je suis toujours là.
Eh ben parfait. Tu sais que je suis le roi de la transition. Tu as vu qu'on a parlé d'histoire avec un grand H, d'histoire avec un petit H. On a été en Grèce antique dans l'histoire avec un petit H. Et du coup, on va aller sur la trahison d'Olympe. T'as vu?
Ah bien,
trop
pas
fort
mal.
Joli. La trahison d'Olympe. Donc, c'est un album de Jean Dallin. C'est publié aux éditions Sarbacane. Je vais te le passer. Tu vas pouvoir le feuilleter. Déjà, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que c'est un album qui est qualifié par l'éditeur de hors format. C'est un grand album. Il est vraiment cool et il avait vraiment besoin de ça. Est-ce que tu peux éventuellement décrire la couverture très rapidement?
Oui, bah, tu vois, en le prenant, je l'ai tourné à droite, à gauche, tout. Voilà. En fait, on voit, en fonction de comment on incline, apparaît en brillant des petites gouttes d'eau, je suppose.
C'est le vernis sélectif.
Le vernis sélectif, il fait ça, mais ça donne l'impression un peu d'eau qui coule, qui tombe en fait sur le décor. Et j'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Quand je l'ai pris, j'ai trouvé ça très chouette. C'est coloré, il y a une sorte de petit château dans cette verdure, cette forêt. Ça donne envie de savoir ce qu'il y a dedans.
Je te laisse découvrir pendant que je commence. Ça commence avec un petit préambule d'un certain nombre d'années avant. Alors, je précise, c'est un album qui nous a été envoyé par l'éditeur. On arrive à un moment où il y a un livreur qui veut donner un courrier à remettre en main propre à une certaine personne. J'ai perdu les noms. Mais cette personne, c'est la grande patronne d'une usine. Et le courrier doit lui être absolument remis en main propre. Et notre personnage principal va être accompagné d'un autre personnage qui est plutôt bonhomme, on va dire, et plutôt en retard tout le temps. Et ils vont se perdre littéralement dans cette usine pour arriver à livrer ce fameux courrier. Je vais pas vous raconter l'histoire. Il y a des enjeux, mais je vais vous décrire plein de choses. Déjà, cette usine, elle doit être gigantesque. Parce que il y a des étages dans tous les sens. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les règles de cette usine sont un peu particulières. Pour pouvoir emprunter un ascenseur, par exemple, il faut une statue de soi pour avoir le droit d'accéder à certaines zones. Et pour faire refaire cette statue, il faut un certificat. Et ainsi de suite. Vous voyez la maison qui rend fou dans Astérix Obélix, les 12 travaux? On n'est pas très loin de ça. Mais ça, c'est l'histoire. Donc l'histoire, c'est hyper intéressant. Il y a des histoires de trahison. Je ne vais pas vous le dévoiler parce que faut vraiment s'en imprégner. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut que je vous parle aussi un peu du graphisme. Et alors là, il y a Fabien qui est en train de hocher la tête et qui dit « Ouais, vas-y, débrouille-toi Seb, ça va pas être simple. »
Ouais, en effet.
Déjà, on est sur un graphisme où même les personnages ont beaucoup de formes géométriques. Le héros a un nez très long et très pointu. Son compagnon, il a une tête plutôt petite, ronde. C'est assez particulier. Et puis, on est tout de suite capté par les couleurs qui sont utilisées, qui sont toutes très vives, très contrastées. Ça patate dans tous les sens de couleurs, ça pop dans tous les sens, c'est assez dingo. Et puis, on a aussi des grandes doubles pages où on va suivre l'évolution de nos personnages au cours de la page, mais plus dans une grosse illustration que dans un découpage classique. Et on va être complètement perdu parce qu'il se passe énormément de choses partout sur ces mêmes pages, un petit peu à la manière d'un Où est Charlie. On pourrait y passer 3 plombes à essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans chacune des cases, et même persuadé qu'on a des personnages, on va pouvoir les retrouver de case en case où ils vont avoir presque une vie en fait. Et ça rend le truc assez dingue. Donc c'est dur de vous en parler à la radio parce que c'est vraiment superbe à regarder. C'est pour ça que je trouve que déjà le grand format lui convient vraiment, parce qu'un plus petit format ça aurait été dommage. Là on a une espèce de gigantesque stèle avec un truc, on prend bien l'ampleur de la taille de la stèle parce que la page elle est gigantesque. Donc voilà, c'est une expérience à faire, c'est pas très difficile à lire parce qu'il y a plein de passages qui sont très aérés, mais on a besoin de s'attarder sur les pages parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et c'est vraiment top. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabien ?
C'est assez surprenant quand on l'ouvre, au premier abord. Déjà, oui, en effet, toutes ces couleurs, cette palette de couleurs, un petit peu pastel malgré tout.
Oui, mais c'est pas criard.
Par contre, c'est ultra coloré. Et le dessin, j'ai presque envie de dire, simpliste des personnages, au final, est assez... c'est étonné en fait en l'ouvrant, je m'attendais pas à ça. Et en fait, comme tu dis, on se perd dans les pages. Ça me fait penser, alors je sais pas si tu connais ce genre d'ouvrage, c'est Le Château d'Anne Iversaire. C'est plus pour les enfants, et tu te retrouves avec des très grands formats comme ça. Et une multitude de personnages qui font plein de choses à différents endroits et tu les retrouves de page en page et tu cherches toujours où est-ce qu'il est lui qu'on retrouve de l'une à l'autre et tout. Et il y a des moments, j'ai cette impression là de devoir chercher, attends, ah il est là-bas, tiens, il est en train de faire ça, puis tiens, on le retrouve un petit peu en bas ici. On se perd dans cette dans ces ouais, c'est des pages, il y a pas de cases, on est vraiment sur
des pages gigantesques.
Il faut chercher hein, ouais. quoi. C'est-à-dire qu'on va découvrir et prendre le temps de le découvrir. On n'a pas le choix. On est obligé de s'attarder sur chaque page. Et je pense que c'est une lecture qui doit être assez particulière et intéressante à avoir et qui change de l'ordinaire. En tout cas, je trouve ça très original.
Moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça aussi hyper cool, en fait, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, des fois, tu ouvres une double page, tu vois tes personnages, que tu as une bulle qui t'explique qu'ils sont en train de parler et tu les cherches dans la page. Toujours, encore une fois, je ramène ça à Où est Charlie, ça fourmille de détails. Il y a beaucoup de choses, donc,
Celle-ci, là, c'est une grande ville. On les voit dans une ville.
Ben voilà, et tu les vois plusieurs fois.
On les voit
évoluer.
À plusieurs endroits. C'est ça. On les ouais. voit évoluer un moment en haut à gauche, en bas, et puis après, ah tiens, il se retrouve un peu plus par là. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, comme façon de raconter.
Et typiquement, cette grande page-là, je suis sûr que t'as plein de personnages où tu peux imaginer ce qui est en train de leur arriver. Hein.
Oui, ouais, clairement. Ouais, ça foisonne d'informations. Ouais, ça a l'air chouette.
C'est très très chouette. Eh ben n'hésitez pas, c'est trop bien. Et je te laisse redonner les références. Hein.
La trahison d'Olympe, ça a l'air d'être prévu en deux tomes.
Ouais, deux tomes.
Il a écrit le livre 1 sur 2 de Jean Dallin aux éditions Sarbacane.
Et ouais, je pense que on en reparlera aussi lorsque le tome 2, voir si le diptyque fonctionne bien.
Ouais, ça marche.
Mais en tout cas, très très bonne surprise. J'ai vraiment kiffé ça. Hop. Tu voudrais peut-être un générique, toi ?
Bah écoute, pourquoi pas ?
Kaizokuni ! Kore wa nare !
Nani ? Omae wa mou shindeiru.
La chronique de Fabien.
Merci Seb. Donc comme on vous avait teasé un petit peu il y a deux semaines, ce son dont j'allais parler aujourd'hui, je reviens avec un nouveau titre d'un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Tayu Matsumoto. Et donc cette fois-ci, je vais vous parler de Tokyo ces jours-ci. Donc Tokyo ces jours-ci, donc c'est toujours aux éditions Kana. Oui, excuse-moi.
Alors, je précise un petit peu quand même que là, on est sur un ouvrage de Schrödinger, puisqu'il nous a été fourni, mais pas encore par l'éditeur.
Oui, exactement. Il y a eu un petit décalage de tempo et tout, et j'étais un peu impatient, et donc du coup, je l'ai récupéré de mon côté pour pouvoir commencer à le lire. Ça, c'est mon petit côté fan de l'auteur qui fait que j'avais trop envie de le lire. Donc, mais Kana nous l'envoie aussi, donc merci à eux. Et donc, c'est dans la collection Made In. Et donc, il est paru au Japon donc en 2019. C'est terminé en 3 tomes. Donc ça, histoire courte, c'est plutôt cool. Souvent le cas avec Matsumoto. On a 2 tomes de sortie chez nous et le 3e arrivera au courant de l'année.
Okay.
Donc là, on est cette fois-ci sur une tranche de vie, un drame, tranche de vie un petit peu. On va suivre en fait Shiozawa, qui est un éditeur de manga, qui, dès le départ de l'histoire, on le voit, donne sa démission en fait à son poste pour des raisons personnelles, après plus de 30 ans passés au sein de la même maison d'édition, avec a priori l'envie d'arrêter dans le milieu du manga. Mais en fait, donc cet homme qui vit seul dans un petit appartement loin de l'agitation de Tokyo, qui parle à son moineau de Java, eh ben il parvient pas à laisser tomber les mangas en fait. C'est une passion qu'il a au fond de lui et il arrive pas à l'oublier malgré le fait qu'il avait l'impression, avec son âge avancé, de plus forcément reconnaître les choses comme il les voyait. Et bah finalement, il décide de partir retrouver tous les dessinateurs avec qui il s'est occupé par le passé.
Ok.
Et donc là, on va vraiment suivre ce quotidien-là, ses rencontres, ses doutes à lui, son questionnement, et on est vraiment sur une tranche de vie. Donc, il faut aimer la tranche de vie, mais elle est hyper bien écrite. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Il nous emmène dans cet univers. Je te passe le tome dans l'univers de l'édition du manga, du coup, et au travers des yeux d'un homme mature, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a roulé sa bosse, comme on dit, passionné, qui n'arrive pas à laisser tomber sa passion, et dont on sent qu'il aime vraiment ça, mais avec ce côté très posé d'homme mûr. Et l'écriture est vraiment très bien faite. C'est-à-dire qu'on va ressentir toute la complexité du personnage principal, mais aussi surtout de tous les personnages qu'il va aller voir. Tous ces dessinateurs qui sont soit encore mangaka, ou qui l'ont été, qui ont abandonné, qui ont réussi ou pas. Et donc on va avoir toute cette complexité de différents personnages avec leurs relations, qui vont être extrêmement bien dépeintes durant tout ce premier tome, et le deuxième que j'ai lu aussi. Et on se laisse embarquer, en fait, vraiment. Et avec ça, le dessin, moi personnellement, j'aime énormément la patte de Matsumoto. Et là, on va être sur un dessin qui change un petit peu d'autres de ses œuvres, qui étaient beaucoup plus caricaturales dans d'autres, comme un beurre béton, où on a un trait qui est plus grotesque, un peu plus caricature. Là, on est sur un trait très crayonné, mais très réaliste. Et ça colle vraiment bien avec le côté posé un peu de cette personne un peu plus âgée qui va nous raconter, dont on va suivre la vie. Et le style, je trouve qu'il colle vraiment. Et ça fait ressortir en fait les émotions des personnages. On est sur quelque chose de très réaliste, mais de très crayonné. Il a vraiment une patte très spécifique à lui, hein. Je peux comprendre qu'on ne puisse ne pas aimer.
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, toi, en voyant le dessin.
Moi, j'aime beaucoup, en fait, mais je pense que je m'y dirigerai pas instinctivement parce que c'est très sombre. Il y a quand même, c'est pas très sombre, en fait. C'est quand même assez lumineux, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de traits.
C'est
je pense
ça.
Qu'il doit épuiser des crayons de bois.
Sur celui-là, il est très, très crayonné, ouais.
Et c'est c'est très agréable. Un truc qui me surprend et que on en discutait l'autre fois, le fait qu'il y a une espèce d'effet un peu fisheye sur les bords de cases. On a l'impression qu'il y a un point de fuite qui est un peu différent, et ça perturbe un petit peu la façon de voir le.
Ouais, ça c'est vraiment une de ses particularités où ça ressort encore plus dans d'autres œuvres que dans celle-ci. Il aime beaucoup le cinéma et donc du coup, je pense que l'effet joue beaucoup. Et donc pour le coup, moi je vous le conseille, si vous connaissez pas Matsumoto, essayez. Il y a que c'est prévu qu'en 3 tomes seulement, donc c'est pas non plus ça vous engage pas beaucoup, et testez déjà le premier. Si vous aimez la tranche de vie, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire.
C'est un point d'entrée pour toi pour Matsumoto ou pas?
Ça peut en être un, parce que il est pas trop onirique comme certains titres. Le dessin est peut-être plus accessible que sur certaines d'autres œuvres où il est encore plus particulier que ça. Donc je pense que ça peut être un point d'entrée, ouais, tout à fait.
Ok.
Donc du coup, c'était Tokyo ces jours-ci, aux éditions Kana, de Tayu Matsumoto. That's all,
folks. Et oui, c'est la fin de l'émission. On va pas avoir le temps de faire un récap parce qu'on n'est pas en avance. On a beaucoup parlé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à télécharger le podcast dès que vous voulez, dès que l'émission est finie. Et puis on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que c'est intelligent. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini. Rentre chez toi.